sur le littoral atlantique, entre l'estuaire de la Seudre et la Gironde, s'étend une forêt de pins maritimes. Ici, comme en d'autres lieux sablonneux, vivent de nombreux insectes, des hyménoptères sphécidés en particulier. Parmi les grandes bruyères que dominent les pins et les chênes verts, au milieu d'un chemin, nous découvrons une ammophile, amie du soleil et du sable. À proximité, abondent des fourmis. Des mutiles, souvent parasites d'autres hyménoptères, des acridiens. Celui-ci n'est pas mort, mais il vient d'être paralysé à coups d'aiguillon par une petite guêpe fouisseuse, Tachysphex panzeri. Comme tous les sphécidés, il entraîne sa proie au fond d'un terrier. Terrier qu'il obture soigneusement avec des mouvements précis de l'abdomen. Non loin de là, Sphex occitanicus, beaucoup plus grand, se prélasse au soleil. Sur les buissons de Daphné, butinant le suc des fleurs, nous retrouvons Ammophila sabulosa, reconnaissable à ses pattes noires et à son extrémité abdominale bleu métallique. Sur une petite composée, Helichrysum, nous découvrons Ammophila edeni, aux pattes rouges et noires. Les comportements des espèces que nous verrons alternativement n'ont pas présenté de différences notables. Pour compléter les observations effectuées dans le milieu naturel, Ammophila pubescens a été filmée en terrarium. Les ammophiles acceptent alors ces tablettes constituées de sucre et de miel. Après s'être alimenté, comme beaucoup d'insectes, l'ammophile procède à des toilettes soignées. On remarque ici une posture particulière et fréquente, les mandibules plantées sur un appui solide. Cette position lui permet des mouvements assez acrobatiques. Le nettoyage de la tête, des antennes et des palpes s'effectue avec un soin méticuleux. Dans la nature, les ammophiles vivent solitaires. En captivité, elles se menacent fréquemment et s'affrontent en combats très brefs, mais rarement meurtriers. Cette scène agitée est ralentie trois fois. En terrarium, nous avons réussi à filmer l'accouplement. Très rapide, il est ici ralenti comme les images précédentes. Dans ce chemin forestier, les femelles d'ammophiles déploient une activité fébrile. Celles-ci cherchent un endroit favorable pour y creuser un terrier, un sol nu, ferme, bien exposé au soleil. son choix fixé, de ses mandibules robustes, elle creuse et déblaie. Le sable est ici traversé de petites racines mélangées de débris. Quand la tâche devient difficile, on entend monter du fond du puits comme une expression des efforts de l'insecte, selon la formule de Fabre. Ces images présentent tour à tour les deux premières espèces dans leurs allées et venues. Elles sont ralenties 8 fois. L'amophile des sables s'éloigne avec une charge de déblai qu'elle va rejeter au vol à quelques décimètres du trou. Ainsi, aucun monticule ne s'élève autour de l'orifice. Amophila edeni explore les lichens, la base des plantes, à la recherche d'une proie. Nous allons lui offrir une petite chenille arpenteuse de la taille de celle qu'elle capture habituellement. L'amophile attaque avec les mandibules et cherche à saisir la chenille en arrière de la tête. Campée au-dessus de sa proie solidement maintenue, elle replie l'abdomen et pique le corps de la chenille au tiers antérieur, près de la ligne médio-ventrale. Nous expérimentons maintenant en terrarium avec cette grosse chenille de noctuelle, famille qui fournit parfois des proies à l'amophile des sables. La chenille subit, malgré ses contorsions, une série de piqûres appliquées au niveau du premier segment thoracique. Les convulsions de la victime s'apaisent. Encore une piqûre, la paralysie s'établit. En terrarium, présentons une proie inhabituelle, une larve de tantrède ou fausse chenille. L'amophile utilise la même méthode. Ses crochets mandibulaires maintiennent solidement le premier segment thoracique et l'aiguillon larde la proie qui s'immobilise dès la seconde piqûre. Dans la nature, Amophila edeni attaque généralement des chenilles de géométridés. Parfois, elle immobilise provisoirement des proies fragiles par un coup de mandibule en arrière de la tête. Nous avons aussi observé un malaxage de la région post-céphalique sur une petite chenille de microlépidoptère. L'opération a duré plusieurs minutes. Malgré un premier accouplement, la femelle est restée attractive. Mais cette tentative n'interrompt pas son occupation. Les mandibules, indispensables à l'attaque, servent maintenant au transport de la chenille jusqu'au nid, creusé la veille ou quelques heures auparavant. L'amophile paraît maintenant très excitée. La chenille de noctuelle que nous avons vue immobiliser tout à l'heure pose des problèmes graves par son encombrement. Au bord du chemin ensoleillé, nous pouvons suivre le transport d'une chenille arpenteuse. L'amophile des sables l'a déposée quelques instants le temps de reconnaître son nid. Elle la reprend tantôt par la tête, tantôt par la partie postérieure, à califourchon au-dessus de sa proie. La tâche est menée très rapidement. Après un long parcours dans les lichens et les débris de feuilles, la mophile s'envole brusquement avec sa charge et nous la retrouvons perchée dans la bruyère. Elle suit un itinéraire dont nous ne comprenons pas la complexité. Un dernier envol la conduit au bord du nid. Nous avons juste le temps de retrouver la chenille et de la voir disparaître dans le puits, traînée à reculons. Sur la proie enfouie, l'amophile va pondre un œuf allongé, presque translucide, directement posé sur le tégument. Très vite, elle reparaît et entreprend de reboucher le nid. Ici, un petit gland de chêne vert sert de premier couvercle. En observant de plus près Amophila et Deni, nous voyons le détail de la clôture du terrier. Dès que l'approvisionnement est complet, l'amophile camoufle l'entrée, qu'il n'est pas possible à l'observateur de retrouver sans repère. Mais nous avons été témoins d'une scène assez exceptionnelle. Une amophile, au lieu d'enterrer, déterre une chenille. Le trou est plus large que celui d'un nid habituel. Elle va sortir, mais très vite, avec sa prise. Une proie paralysée peut servir aussi de nourriture à d'autres insectes, aux fourmis en particulier. Les amophiles se défendent. La poursuite, ralentie trois fois dans ces images, suffit dans bien des cas, ou la menace de front, plus ou moins proche, plus ou moins pressante. Une prise de vue à 200 images par seconde permet d'observer ce qui arrive à un ennemi trop insistant. L'amophile est capable de retrouver son nid bouché accidentellement. Répétons l'expérience. Multiplions les difficultés. Les amophiles passent de longs moments sur le sol, immobiles, peu visibles dans le fouillis végétal. Quand vient la nuit, On peut les voir choisir une branche, une tige, souvent la même chaque soir. Beaucoup d'hyménoptères voisins font de même. Ils se retrouvent parfois dans de véritables dortoirs. Ici, Sphex albisectus. Là, Sphex occitanicus. Ces attitudes sont caractéristiques de chaque espèce. Sphex albisectus s'immobilise la tête en bas, fixée au support par les mandibules. Les ammophiles demeurent ainsi tendus dans l'espace, les pattes touchant à peine la tige ou flottant verticalement. Pour découvrir l'entrée d'un nid, nous avons utilisé ce moyen qui a permis de retrouver, dans l'ordre inverse, le sable, puis le gland qui obstruait la galerie. La coupe du terrain sableux montre sa consistance. Parmi l'enchevêtrement de multiples racines, nous découvrons une loge, simple élargissement oblique du puits vertical. Des proies entassées par l'ammophile, les plus récentes se présentent d'abord. Les plus anciennes ne sont que téguments vides. Voici la larve d'ammophile. Elle est apode. Son extrémité antérieure amincie se recourbe en crochet. La capsule céphalique, petite mais complète, est armée de mandibules courtes et robustes. Offrons à cette larve une chenille paralysée. Nous pouvons observer ainsi les mouvements qui permettent la fixation sur la proie. Parfois, dans les sables de la forêt, des diptères spoliateurs, comme Miltogramma, viennent pondre au-dessus de certains nids d'ammophiles. Fréquemment, des mutiles, ici d'Asilabris mora, peuvent parasiter à leur tour les larves. En automne, grâce à un repérage précis, on peut retrouver certains nids. La larve s'est tissée un cocon ovoïde, fragile, qu'il faut isoler avec précaution. En ouvrant ce cocon, on constate l'existence de deux enveloppes. Pendant plusieurs mois, la larve y demeure enfermée, la tête fortement repliée sur la face ventrale, dans la position qu'elle avait déjà pendant sa vie active. En visitant ces cocons, il arrive de découvrir un autre parasite, ici une larve de diptère bombylidé. Nous retrouvons ce même parasite à l'état nymphal. Il occupe tout l'intérieur du cocon, où ne subsiste plus que quelques débris de la larve d'ammophile. Cette nymphe est dotée d'une ornementation complexe qui lui permet, le jour de l'éclosion, de se frayer un chemin jusqu'à la surface du sol, où l'exuvie reste plus ou moins apparente. Il s'agit de Tyridanthrax fenestratus. Au printemps, les larves d'ammophiles qui ont échappé à leurs parasites changent de forme. La moitié antérieure, jusqu'alors repliée, devient rectiligne et s'allonge. C'est au mois de mai que se produit la nymphose. Dès lors, les caractères généraux de l'hyménoptère apparaissent. Tête, thorax, abdomen sont nettement différenciés. Les appendices sont distincts. Les yeux se pigmentent bientôt. La coloration commence par la tête, gagne le thorax, puis l'abdomen. Ces nymphes présentent les étapes successives de la pigmentation. La période nymphale dure 19 à 20 jours. Nous ouvrons un cocon quelques jours avant l'éclosion. La mue imaginale a eu lieu. Les ailes ne sont pas encore déployées. C'est à la sortie du cocon que leur extension s'achèvera. Pour se libérer, l'ammophile commence par découper une section circulaire dans le cocon. La partie détachée gêne parfois la progression. Alors, l'ammophile la dilacère de ses mandibules. Le sable, plus ou moins tassé durant l'hiver, est le seul obstacle vers le jour. L'insecte creuse une galerie de sortie qui s'allonge lentement, souvent en oblique, vers l'extérieur. Elle crisse déjà bruyamment à ce stade. La loge peut devenir spacieuse, mais parfois les matériaux s'éboulent et l'ammophile, gênée de toutes parts, progresse lentement. Après 10 à 20 minutes d'effort, elle traverse vivement les derniers éboulis pour s'extraire enfin de terre et pratiquer une première toilette. Elle prend place ainsi, avec ses ennemis et ses futures proies, dans une chaîne trophique complexe, élément de l'équilibre biologique naturel, qui se maintient harmonieusement si l'homme ne le bouleverse pas.